commencer en vous parlant de cloud, plus précisément d'infrastructure de service et du projet OpenStack. Donc Lionel ici présent et moi-même allons d'abord vous expliquer ce que c'est que l'IAS, l'infrastructure as a service, et qu'est-ce que fait le projet OpenStack, d'où il vient et où il en est aujourd'hui. Je vais laisser Lionel se présenter juste après, rapidement. Donc moi je travaille pour une société qui s'appelle Ozone, qui travaille notamment sur OpenStack, et je suis un des membres fondateurs de l'association des utilisateurs francophones d'OpenStack. Vous pouvez trouver des informations sur l'asso sur openstack.fr. Et donc on va y aller rapidement. On va essayer de. Si vous ne savez pas forcément ce que recouvre la notion de cloud, en fait c'est beaucoup de choses et nous on va s'intéresser à une partie. Déjà on ne va pas s'intéresser au cloud, mettre ses données dans le nuage, c'est pas ça qui va nous intéresser ici, mais je pense que si vous êtes venu sur le track DevOps, vous êtes peut-être déjà un petit peu à NIN6 ou assimilé, donc vous voyez bien ce que je veux dire. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les notions de self-service, les notions d'API, et donc d'infrastructure dans le cas présent. Donc, dans la première partie, Lionel va vous expliquer l'IAS en détail, et puis moi, dans la deuxième partie, je vais vous parler du projet OpenStack, qui est une solution qui permet d'implémenter une plateforme IAS. On parlera un petit peu de stockage, et puis sur la fin, on parlera d'infrastructure as code, qui est un peu un but ultime pour un admin 6, on va dire, qui veut déployer et gérer son infrastructure avec des outils cloud. Notamment, pour faire ça, on va utiliser des outils d'orchestration qui sont, il en existe qui sont intégrés dans OpenStack, notamment un qui s'appelle Eats, dont on vous parlera tout à l'heure. Et voilà. Donc je vais laisser Lionel parler pour la première partie.
Donc moi, je m'appelle Lionel Porcheron. Donc en fait, je travaille dans une société toulousaine qui s'appelle Sierra Wireless. Enfin, qui est canadienne à la base. On vend du software as a service, et donc on a été amené depuis 3 ans, 4 ans bientôt, à utiliser OpenStack pour déployer l'infrastructure qui nous permet de faire fonctionner donc l'infrastructure de notre offre de software as a service. Le cloud, pour définir un petit peu ce que ça recouvre, plein de choses. Donc Adrien l'a dit, il y a du stockage, on parle de virtualisation, on va parler aussi d'abstraction matérielle. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà manipulé un petit peu, ou Amazon ou OpenStack dans la salle, qui sont familiers avec ça. Pas beaucoup. Ok. Ça reprend un petit peu, ça étend un petit peu la virtualisation. Donc vous avez l'habitude, je ne sais pas si vous avez une virtual box ou n'importe quoi sur votre machine, de créer des machines virtuelles. Et l'idée, ça va être d'industrialiser un peu ça et de fournir des outils au-dessus de ces briques de base pour manipuler ces machines-là. Donc ça va de quelque chose qui peut être très simple à quelque chose, on va le voir, qui peut être assez compliqué en fournissant des services, beaucoup de services au-dessus de la simple création de machines virtuelles. Donc on s'abstrait complètement du matériel, on manipule plus un serveur physique, donc vous n'êtes plus en train de dire je veux racker un serveur dans ma machine physique, dans mon rack. Vous êtes en train de dire je veux créer une machine, et à la rigueur vous vous en fichez de savoir si c'est du cloud public, vous en fichez de savoir si c'est où est-ce qu'est le serveur. Accès normalisé, donc des API, donc ça fait partie de l'industrialisation. La plupart des choses, vous pouvez le faire par des API. On va le voir sur la partie orchestration. C'est intéressant pour rejouer à la demande ce que vous voulez faire. Donc par exemple, on en reparlera tout à l'heure, vous voulez créer une infrastructure avec 4 serveurs, vous enregistrez quelque part que vous voulez créer vos 4 scripts, un script avec la création de vos 4 serveurs, et c'est parti. Une notion aussi importante, ça va plus être lié à des grosses structures, donc soit du cloud public, soit un cloud privé à l'intérieur d'une compagnie, c'est cette notion de service à la demande, de facturation à la demande. Donc c'est vous payez ce que vous consommez. Donc vous avez besoin d'une machine, vous créez la machine, vous avez complètement l'abstraction de la couche matérielle. Donc est-ce qu'il y a un serveur qui est dispo, c'est plus votre problème. Il y a des gens qui sont là pour gérer vraiment la couche, est-ce que le serveur est dispo. Vous êtes client de ça, vous vous dites je veux un serveur, vous créez votre serveur. À la fin, vous avez fait votre calcul, vous éteignez votre serveur et quelqu'un d'autre aura probablement besoin de recréer un serveur pendant que vous n'en avez pas besoin. Donc c'est vraiment une notion de mutualisation et d'optimisation des ressources. Donc plutôt que d'avoir un gros serveur qui tourne 10% du temps parce que vous avez besoin de faire un calcul, là vous mutualisez. Donc c'est un petit peu, enfin on revient à l'ère du mainframe où enfin, on gérait, t'as pas besoin de calculer le truc, c'est bon. Là c'est géré automatiquement. Donc notion de flexibilité, élasticité, donc c'est aussi une des notions clés du cloud qui va amener à faire un petit peu évoluer la manière dont on concevait ces infrastructures. Donc dire on va concevoir des applications un petit peu différemment, donc on pourra en parler un petit peu après. Quand j'ai besoin de deux fois plus de capacité, je suis capable de booter un deuxième serveur à côté et qui va me permettre de tenir deux fois ma recharge ou une fois et demie ou enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais voilà, d'être capable de croître horizontalement. Donc c'est ce qu'on parle de scalabilité verticale. Vous rajoutez une plus grosse machine pour supporter la charge ou de scalabilité horizontale, donc vous rajoutez de plus en plus de machines pour tenir votre charge. Donc les as a service très à la mode. Donc là on va parler aujourd'hui d'infrastructure as a service. Il y a des choses qui vont se placer au-dessus de l'infrastructure as a service. Donc ça va être les plateformes de plateforme as a service. Donc la plus connue aujourd'hui c'est Heroku, qui permet donc de travailler avec vous faites votre application et on va vous fournir un environnement qui permet de déployer votre application sur le cloud. Il y a Google Apps aussi qui existe, qui vous permet justement de plus gérer la notion j'ai besoin de déployer Python, 3.2, etc. C'est eux qui le font pour vous. Et donc la couche la plus élevée qui est Software as a Service, c'est vous achetez un service sur le cloud, donc vous payez Gmail pour votre entreprise, Software as a Service, c'est du pur software. Donc c'est la mode du as a service, donc on a tout, donc aussi bien côté Amazon. Si vous avez déjà regardé la page d'Amazon, il y a une liste plus que conséquente de services. Et OpenStack aujourd'hui commence à faire pareil, donc à rajouter des services, donc database as a service. Vous avez besoin d'une database, vous vous en fichez de déployer un serveur MySQL, vous vous en fichez de déployer un serveur PostgreSQL. Il y a un service qui va vous permettre juste par des API, par une UI, de créer votre base de données. Et vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Il n'y a pas à gérer la scalabilité, comment est-ce que je fais croître horizontalement, verticalement mon serveur. Network as a service, pareil, vous créez, alors c'est plus des VLAN du coup, c'est des réseaux, des subnets, etc. Vous les interconnectez à travers des API, vous cherchez plus à, il n'y a plus de manipulation de la couche physique, donc c'est vraiment l'abstraction de couche physique, même si ça introduit parfois des notions qui sont un petit peu déroutantes et un petit peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de manipuler. Load balancing as a service, pareil. Un load balancer plutôt que d'installer votre HA proxy, votre Linux virtuel server ou tout ce que vous pourriez imaginer. Il y a un service qui est intégré, donc qui fournit en général après une couche d'intégration. Donc pour reprendre le parallèle avec Amazon, c'est les ELB chez Amazon qui permettent de tester et de vérifier que les serveurs qui sont derrière sont dispo, ils gèrent l'autoscaling, enfin on peut faire des choses qui sont assez poussées. Donc aujourd'hui, il y a tout ce que vous pouvez imaginer en as a service. Adrien reparlera un petit peu plus en détail après dans la présentation du projet OpenStack de tous les nouveaux composants qui sont en train d'apparaître dans OpenStack. Cloud, on distingue un petit peu trois clouds, donc juste pour fixer les idées aussi d'un cloud public. Donc effectivement, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Amazon, Rackspace Cloud, il y a qui a un cloud donc OpenStack, il y a HP Cloud qui fait de plus en plus parler de lui aussi, qui est de l'OpenStack, il y a OVH, donc l'hébergeur français, qui a lancé une offre OpenStack aussi il y a quelques mois maintenant. Donc à l'exception d'Amazon, aujourd'hui de plus en plus d'acteurs de cloud public commencent à baser leurs offres sur de l'OpenStack et contribuent énormément au projet OpenStack. Enfin, les plus gros contributeurs, tu connais mieux que moi, enfin, je pense que c'est HP, Rackspace sont quand même dans les très très gros contributeurs aujourd'hui d'OpenStack. Cloud privé, c'est ce que nous on fait, donc vous installez OpenStack chez vous, vous gérez et vous gérez votre infrastructure avec OpenStack. Donc ça peut être une alternative à quelque chose que, enfin, une infrastructure type VMware ou des choses comme ça. Il y a des gens qui ont des très très gros clusters privés OpenStack. Donc on avait vu il y a quelques temps le CERN à Genève qui a une infrastructure donc, qui visait 10 000 machines physiques de déployer et 300 000 machines virtuelles dessus. Donc là, quand on parle de mutualisation des ressources, on est en plein dedans. Dire qu'au lieu qu'un projet achète sa machine, ils sont en train de dire, bah voilà, les projets, ils ont des besoins variables. S'ils ont besoin de faire traiter des données à la fin d'une expérience, ils bootent des machines sur le projet autonome. Il est capable de booter des machines sur le cloud privé du CERN. Il fait son calcul et à la fin, bah, il va couper un certain nombre de machines dont il n'a plus besoin et un autre projet pourra bénéficier de la puissance de calcul. Il y a de plus en plus de solutions de cloud hybride qu'on voit apparaître sur le marché. Donc l'idée, c'est de connecter du cloud public et du cloud privé. Donc tout ce que vous pouvez imaginer, ça va du plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité. Donc vous avez votre cloud interne, vous externalisez sur un cloud public un plan de reprise d'activité. Donc pareil, ça peut être intéressant dans le sens où vous pouvez avoir copié des données, vous pouvez avoir des machines qui sont pas forcément démarrées. Donc au lieu d'avoir un plan de reprise d'activité avec des machines qui sont en permanence démarrées, là vous avez des machines qui sont coupées ou vous avez des règles qui vous permettent de recréer les machines. Et si vous perdez votre site principal, en quelques minutes, heures, vous êtes en train de reprendre, alors que ça n'a rien à voir avec le coût de si vous deviez maintenir un deuxième data center avec vos serveurs et toute l'infrastructure qui va avec, qu'il faut continuer à upgrader, à faire vivre en même temps. Donc le pionnier, enfin, j'en ai parlé et je continue à en parler. Enfin, en plus, c'était une semaine qui était assez riche puisqu'il y avait la semaine de la conférence annuelle Amazon à Las Vegas. Donc ils ont fait à peu près 25 annonces par jour. Donc le premier, il faut le reconnaître, ça, c'est Amazon. Donc Amazon Web Services, donc c'est le qui a commencé à faire ça donc, en 2006. Donc c'est le vendeur de livres hein, sur Internet que vous connaissez tous, qui pour ses besoins internes s'était posé des questions et qui a commencé à développer donc, cette offre qui, il faut le reconnaître, était en avance et continue à être vraiment un très fort innovant dans le domaine. On va dire qu'OpenStack est plutôt en train aujourd'hui de courir derrière que de leur passer devant. Donc les briques de base, les deux briques de base principales, c'est les deux briques de base qui ont été réimplémentées dans OpenStack en premier. Donc c'est toute la gestion des machines virtuelles, donc ce qu'ils appellent Elastic Compute, donc EC2. Et tout ce qui est stockage de blocs, qui a mis un peu plus de temps à arriver dans OpenStack, qui s'appelle l'EBS chez Amazon. Il y a une notion de stockage objet qui est un petit peu compliquée à appréhender si vous n'avez pas l'habitude. Donc, c'est stocker des fichiers par des API REST. Donc vous n'allez pas avoir un file system, donc vous n'êtes pas en train de faire des répertoires, vous n'êtes pas en train de poser vos fichiers là-dedans, mais vous êtes en train de faire une interaction avec des API REST pour poser, récupérer vos fichiers ou faire tout un tas d'opérations sur vos fichiers. Ça paraît un peu compliqué au premier abord, on y en aime bien notre petit file system, faire un MMV, MMKDIR dans les répertoires. Au final, c'est vraiment un des points qui est de. Enfin, c'est un service qui a été prévu avec une très très forte scalabilité, donc vous ne vous posez plus la question de j'ai besoin de faire augmenter mon file system, j'ai besoin de faire augmenter mon disque dur, ce qui est le cas avec du block storage. Enfin, vous avez quand même une partition, vous avez un file system, vous avez tout ce que vous voulez. Là, vous posez des fichiers sans vous poser de questions. Et le service qui est en dessous, il est vraiment conçu pour eux, ils rajoutent des serveurs et vous n'avez rien à gérer là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu déroutant par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire sur des file systems. C'est vraiment un des points forts et en termes de tarification, si un jour vous vous amusez, il y a des, il y a des calculs, enfin, quand on commence à faire du, notamment de l'Amazon, qu'on paye le service, en général, on cherche à s'amuser un petit peu à aussi d'optimiser les prix. Vous allez voir que c'est souvent intéressant d'utiliser ce S3 parce que ils ont un stockage qui est à très bas prix par rapport à du stockage file system et qu'il est super performant. Il y a le pendant dans OpenStack qui s'appelle Swift avec un deuxième projet qui fait un petit peu le même type de service. Et c'est quelque chose qu'on n'exploite pas au premier abord, mais qu'il faut vraiment regarder. C'est super pratique quand vous avez besoin de stocker des fichiers, même des énormes fichiers. Hein, ça, il y a des fichiers jusqu'à 4 Tera, donc vous avez le temps, la place. Vous pouvez récupérer ça assez simplement et ça fait des choses très sympathiques. Donc chez Amazon, plein d'autres services. Donc RDS, c'est le Relational Database de Service, le SNS, un système de notification. Donc on en a toute une série. Côté open source, un des premiers, ça a été Eucalyptus, qui a été récemment racheté par HP. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils veulent en faire, parce que du coup HP se retrouve avec son portefeuille et OpenStack et Eucalyptus. Donc qui avait un assez bon produit, je crois qu'ils ont commencé en 2007 ou quelque chose comme ça, enfin il y avait déjà les prémices, qui n'a pas été très bon en termes de gestion de communauté, etc. Il y a CloudStack, donc il y a un projet Apache, et OpenNebula, et bien sûr OpenStack, dont Adrien va vous parler après, qui est quand même aujourd'hui le projet vers lequel un maximum de gens se tournent. Ils ont été très bons en termes de communauté, ils ont repris des principes d'Ubuntu d'intégrer les problématiques de communauté dès le début et donc réussir à vraiment construire une très très bonne communauté et très forte communauté dès le début. Un petit peu de vocabulaire. Les images, donc les AMI, Amazon Machine Instance chez Amazon, c'est un template de machine, il faut vraiment voir ça comme un template de machine, donc vous allez récupérer un template, donc la dernière Ubuntu, la dernière Fedora, la dernière OpenSUSE, et vous allez créer une machine virtuelle, donc vous allez l'instancier, donc ça s'appelle une instance qui est derrière. Vous avez la notion de volume, donc là c'est les blocs storage dont on parlait tout à l'heure, qui vous permet après de rattacher ces volumes à vos instances. Donc vous pouvez après, soit vos instances utilisent directement des volumes, soit vous pouvez définir des volumes, les rattacher à vos instances. Donc ce qui permet de faire de la haute dispo éventuellement, d'avoir un volume que vous passez d'une instance à l'autre en cas de crash. Donc par exemple, si on devait implémenter un serveur de mail, ça serait naturel d'avoir la partie purement installation de software, votre IMAP, votre serveur SMTP dans l'instance et vos mails sur le volume, et puis vous pouvez faire croître les deux un petit peu indépendamment. Et après, éventuellement, gérer une achat avec une autre instance qui prend le pas et qui rattache le volume. Donc les notions stockage bloc, stockage objet. Objet, je le répète, c'est pas forcément très très naturel comme approche, mais c'est un service qui est très intéressant quand vous voulez vraiment gérer un stockage de fichiers de manière massivement horizontale. Les API, on en a parlé. Un point quand même qui à retenir, c'est l'infrastructure as a service, elle utilise la virtualisation, mais il ne faut pas voir ça juste comme la virtualisation de vos machines. Il y a toute une couche qui vient au-dessus de la virtualisation et qui va vous permettre d'industrialiser et d'utiliser vos machines. Donc voilà, c'était un petit exemple après de ce qu'on fait chez Amazon. Adrien vous montrera la même chose chez OpenStack. Donc là, vous êtes en train de voir que vous avez le nom des instances et il ne dit plus quel type d'image c'est. Donc là, c'est on a démarré toutes ces machines-là d'instances à partir d'un template, en l'occurrence, c'était d'un template d'Ubuntu. Donc après, on définit, quand vous démarrez votre instance, vous êtes en train de du coup définir quel type de machine. Donc chacun a sa dénomination, M3 médium, donc vous définissez quelle RAM je veux, quel espace disque je veux. Voilà pour cette première introduction. Maintenant, Adrien va vous parler un petit peu plus en détail de la partie OpenStack.
Ok, donc maintenant que vous avez une vue un peu plus claire de quoi on va parler en termes de cloud et de ce que c'est donc l'infrastructure as a service. On va parler du projet OpenStack lui-même. Alors, le schéma que vous retrouverez partout, un petit peu accessible au plus grand nombre, on va dire, sur OpenStack, ça fait quoi ? OpenStack, ça fournit trois types de ressources, basiquement. Des ressources de calcul, des ressources de réseau et des ressources de stockage. Pour fournir cet ensemble de, ces trois types de ressources, OpenStack se base sur un ensemble d'autres services, donc on va avoir un peu plus en détail juste après. Là, c'est appelé OpenStack Shared Services. Donc, c'est toutes les briques de base nécessaires pour qu'OpenStack puisse fournir ses ressources. Ces ressources, en fait, elles sont accessibles, elles sont administrables, gérables via des API. Donc, c'est un point qui fait que OpenStack fournit de l'IaaS, fournit du cloud, c'est que toutes ces ressources, vous pouvez les gérer via les API. Et donc, concrètement, les API, c'est des API REST, HTTP, comme chez Amazon. Vous, en tant qu'utilisateur, vous avez plusieurs manières de gérer vos ressources via les API. Soit, on va dire directement, vous pouvez envoyer des requêtes HTTP sur les adresses des API pour dire « crée-moi un volume de 10 gigas » ou pour dire « crée-moi une instance avec tant de RAM », etc., etc. Mais bon, le plus souvent, vous allez plutôt soit utiliser des outils en ligne de commande qui vous permettent de manipuler facilement ces API, soit le dashboard OpenStack, qui est un morceau du projet OpenStack qui fournit une interface web. Et en fait, tout ce qu'elle fait, cette interface web, c'est parler aux API. Soit vos propres applications peuvent elles-mêmes utiliser les API pour, par exemple, si votre application, à un moment donné, a besoin de plus de ressources, elle peut elle-même demander, par exemple, plus de ressources de stockage ou des choses comme ça. Et tout ça, vous faites fonctionner tout ça sur du hardware. Pourquoi standard hardware ? C'est du matériel, hein, c'est des serveurs. Mais l'idée de matériel standard, c'est par rapport au service de stockage objet. J'expliquerai ça plus en détail tout à l'heure sur la façon dont est implémenté le service de stockage objet dans OpenStack. Un petit historique du projet. OpenStack a fêté ses 4 ans l'été dernier. Le projet a été officiellement annoncé lors de l'OSCON, qui est une conférence qui a lieu tous les ans à Portland, aux États-Unis, Open Source Conference. Donc ça a été annoncé à Portland en 2010, donc à l'été 2010. Et l'objectif annoncé du projet, c'est de faire le Cloud Operating System libre, en fait de faire le kernel Linux du cloud, de l'IaaS en tout cas. Et d'où vient le projet à la base ? C'est en fait la réunion de gens d'un côté chez Rackspace, dont Lionel a parlé tout à l'heure, qui est un hébergeur américain assez conséquent, et qui à l'époque fournissait un service de stockage objet à ses clients, donc en cloud public. Et ils avaient une solution faite maison, et puis à un moment donné ils se sont dit bon, on va la refaire parce que notre solution là, elle scale pas, elle passe pas à l'échelle, on commence à avoir trop de clients qui stockent trop de données, notre système il tient plus la charge. Et donc ils ont tout recommencé en essayant dès le début de faire une architecture logicielle qui scale. Et donc ils ont commencé à coder ça en Python. Ça assez vite, ça s'est mis à fonctionner, et donc ils sont mis à utiliser ce code en production très rapidement pour leur cloud public de stockage objet. Voilà, ça c'était d'un côté, c'était Rackspace, et de l'autre côté, il y avait la NASA, donc qui de temps en temps envoie des fusées, etc. Et là, ils avaient des besoins de ressources de calcul, concrètement de VM, mais vous verrez tout à l'heure, on en parlera un peu plus de ça, c'est pas forcément des VM, en tout cas des ressources de calcul. Et donc, ils ont commencé à coder en fait avec des sous-traitants à eux, ils ont commencé à développer en Python, de leur côté, un système qui permettrait de fournir, via des API, des ressources de calcul. Et bon, les choses ont fait que des gens de chez Rackspace et des gens de la NASA se sont rencontrés, puis ont dit, mais en fait, on est en train de faire un truc qui est similaire, on a la partie stockage, on a la partie compute, on fait les choses en Python, on essaye de les faire de manière ouverte. Les projets libres à côté pour faire de l'IAS, c'est Eucalyptus, et ça commence un peu à battre de l'aile, enfin sur le modèle de gouvernance, etc., c'est pas top. Et donc, ils se sont dit, allons-y, on lance OpenStack. Le projet est depuis le début sous une licence libre, c'est pas juste open source, c'est libre, donc c'est sous licence Apache 2. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2014? Il y a eu un certain nombre de releases. On a commencé par un cycle de release fixe de 3 mois, qui est assez rapidement passé à 6 mois. Et si vous êtes familier avec Ubuntu, c'est un point, et vous verrez qu'il y en a d'autres, qui vous rappellera Ubuntu. C'est-à-dire que le cycle de release fixe de 6 mois, qui colle à peu près au niveau des dates à Ubuntu, avec des noms de release dans l'ordre alphabétique, donc un codename comme ça, et un numéro de release basé sur l'année, c'est de l'Ubuntu tout craché. Donc ça, c'est pas un hasard, c'est que les gens qui étaient là à la naissance du projet, il y en a un certain nombre qui étaient dans l'écosystème Ubuntu, voire qui travaillaient pour Canonical, donc l'entreprise qui supporte principalement Ubuntu. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve toutes ces idées. Et donc effectivement, OpenStack a un cycle de release calé sur celui d'Ubuntu, c'est-à-dire que un mois avant la release d'Ubuntu, vous avez une release d'OpenStack, et donc aujourd'hui, si vous prenez Ubuntu et que vous voulez installer OpenStack sur votre Ubuntu, prenez la dernière Ubuntu, vous aurez la dernière version d'OpenStack. Donc Juno est sorti en octobre dernier, donc il y a un mois à peu près, et la prochaine release sort donc dans 6 mois. Pour la petite histoire, comment sont trouvés les noms de release? Chez Ubuntu, c'est Mark Shuttleworth, donc le fondateur d'Ubuntu qui choisit des noms d'animaux avec un adjectif tout seul. Là, en fait, c'est basé sur des lieux, en fait, puisque tous les 6 mois, aussi à la mode d'Ubuntu des API. Voilà à quoi ressemble Horizon. S'il nous reste 2 minutes à la fin, on pourra peut-être le voir en vrai. Vous avez moins de choses que dans Amazon Web Services, parce qu'aujourd'hui dans OpenStack, il y a moins de projets, il y a moins de services fournis que dans Amazon Web Services. Mais en même temps, sur certaines parties, par exemple sur l'orchestration, il y a des sujets où OpenStack va essayer d'aller plus loin qu'Amazon Web Services et ajoute des fonctionnalités. Mais clairement, comme l'a dit Lionel au début, le pionnier est celui qui reste en avance dans le monde du cloud et de l'IAS, et du PaaS même, c'est Amazon Web Services. Je vais laisser la parole à Lionel pour la dernière partie sur l'infrastructure as code. En fait, l'idée, c'est comment... Enfin, c'est une manière de tirer parti de votre cloud, OpenStack, c'est de gérer votre infrastructure comme du code.
Donc oui, on a parlé un petit peu au début là, de tous les aspects API, donc... Il y a une notion qui commence à naître, qui est infrastructure as code. Donc c'est gérer votre infrastructure comme du code. Donc qu'est-ce que ça veut dire gérer son infrastructure comme du code? Le premier point, c'est de décrire un peu l'infrastructure. Donc plutôt que d'avoir créé une machine virtuelle, vous ne savez plus pourquoi, vous ne savez plus comment, on ne sait plus, enfin si vous la perdez, vous ne savez plus quelles étaient ses caractéristiques, vous avez des outils qui vont vous permettre de la recréer en étant exactement avec les mêmes caractéristiques. Donc la première chose, c'est d'écrire des appels d'API. Donc vous pouvez faire ça dans votre langage de programmation préféré. Il y a des librairies, des SDK pour tous les langages, aussi bien chez Amazon que chez OpenStack. Il y a des librairies qui sont là pour ça. Donc il y a IT, dont on va parler un petit peu plus en détail après, et CloudFormation. L'idée, c'est de décrire dans un format particulier, donc en JSON ou en YAML, votre infrastructure. Donc dire, par exemple, je pense que l'exemple le plus classique, c'est je veux déployer un WordPress, je veux un serveur web qui fasse tourner mon PHP, je veux une application MySQL et je veux un Memcache parce que mon blog est super connu et que je veux gérer la performance. Donc voilà, vous allez décrire les trois, vous allez mettre la création de la base de données et vous allez pouvoir... En injectant ce fichier directement, soit sa CloudFormation, soit de côté IT, vous allez pouvoir en gérer après la création tout automatiquement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de tester votre infrastructure. Donc, plutôt que de recopier depuis une page wiki en disant « Bon là, mon infra de test, c'est le moment de la mettre en prod. » Donc je vais reprendre la page de wiki et puis je vais recopier-coller toutes mes lignes une par une de création et de configuration et mes fichiers de configuration. Et de faire des typos dedans, parce que quand on fait des copier-coller, on fait des conneries. Vous pouvez relancer du coup le script qui va exactement recréer de la même façon votre infrastructure. Donc après, entre du test et de la prod, des fois il y a des petits ajustements, mais l'idée c'est de faire ressembler au maximum. Donc si vous avez les deux sur de l'OpenStack ou sur du cloud de manière générale, vous pouvez rejouer le même type de script. Là aussi, on parlait de tout à l'heure de mutualisation et d'optimisation des ressources. Il y a beaucoup de gens qui utilisent justement des environnements de test sur du cloud et notamment du cloud public parce que bah, l'environnement de test, il n'est pas forcément utilisé 100% du temps. Donc, ça peut être une bonne idée justement de le shut down, de le détruire et de le recréer et de ne pas forcément laisser up un environnement qui est utilisé 10-20% du temps. Donc, on peut faire des grosses économies là-dessus. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est effectivement d'avoir un processus qui est répétable. Je parlais tout à l'heure au début aussi de plan de reprise d'activité, de continuité d'activité. De continuité d'activité, vous pouvez à ce moment-là répéter vos créations de machines. Vous n'êtes plus en train de dire « j'ai un sysadmin qui a configuré un petit truc à droite, à gauche et plus personne ne sait comment est-ce qu'il a fait son truc ». C'est plus trop dans l'air du temps, donc il y a une image qui est un petit peu répétée à ce niveau-là, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de défenseurs des animaux dans la salle. C'est de dire qu'avant les serveurs c'était des animaux de compagnie et qu'aujourd'hui on voit plutôt ça comme du bétail. Donc dire si l'animal n'est plus là, on le remplace et on continue ainsi de suite à faire vivre. J'aime beaucoup les animaux. On perd l'aspect un petit peu affectif, vous perdez vraiment l'aspect affectif humain justement en passant sur du cloud. Donc je l'ai dit, vraiment essayer de respecter, avoir un cycle de vie aussi sur l'infrastructure, donc d'avoir les mêmes scripts qui vont créer les environnements de dev, les environnements de test, les environnements de pré-prod avant de créer les environnements de prod. Donc j'en ai parlé, environnement de test, du coup vous pouvez créer des environnements à la demande et non plus systématiquement avoir des environnements qui sont en permanence, qui tournent en permanence alors que vous n'en avez pas besoin. Donc vous avez vraiment des aspects industrialisation de la gestion de l'infrastructure. On aura plein d'autres conférences cet après-midi si ça vous intéresse sur ces aspects-là aussi. Enfin, là, on parle vraiment de la création de machines virtuelles. Il y aura une conférence sur la gestion de configuration, donc justement des outils qui, une fois que vous avez créé votre VM, permettent de la configurer derrière. Et une configuration aussi sur Docker qui est assez intéressante en termes d'infrastructure as code et de la manière dont on peut, de nouvelles approches qu'on peut avoir vis-à-vis de son infrastructure. HIT, donc c'est le projet qui se veut compatible avec CloudFormation au niveau d'OpenStack. Ça vous permet donc de créer toutes les ressources. Donc tout à l'heure j'ai donné l'exemple sur un cluster avec un MySQL, un Apache et un Memcache, mais vous pouvez vraiment créer toutes les ressources. Donc il y a des projets maintenant, Adrien en a parlé, de database as a service. Donc plutôt que de créer votre serveur MySQL, vous pouvez très bien dire je décris que je veux créer dans le composant de database as a service une base de données MySQL et la faire utiliser par mon WordPress. Donc vous décrivez tout, les réseaux, les firewalls, il y a un firewall as a service, vous décrivez tout là-dedans. Vous avez la possibilité aussi avec ces fichiers d'utiliser donc l'autoscaling. Donc l'autoscaling, ça existe aussi chez Amazon. Donc c'est Scalometer qui se charge de refaire remonter les métriques dans OpenStack. Ça va vous permettre de baser sur un certain nombre de critères et de faire grossir votre infrastructure aux besoins. Donc l'idée c'est de dire si pendant les 10 dernières minutes, mais deux serveurs web, leur CPU il est à plus de 80%, par exemple, je vais booter un troisième serveur web. Et ça marche dans les deux sens. Donc si par exemple vous dites j'ai X serveurs web et mon CPU il est utilisé depuis plus de 10 minutes, moins de 10%, il faut que j'en fasse tomber un. Donc vous avez vraiment cette notion, là vous n'avez plus rien à faire, vous regardez juste et votre cloud il va grossir et dégrossir à la demande. Il y a des papiers super intéressants, c'est assez compliqué parce que faut grossir vite, faut dégrossir assez lentement, faut pas se tromper parce que si vous commencez à tout détruire alors que votre truc il fait juste les montagnes russes en permanence, c'est un peu compliqué. Mais il y a des choses assez intéressantes. Notamment, alors c'est un gros utilisateur d'Amazon, c'est Netflix qui produit énormément de papier dans le monde du cloud sur l'utilisation qu'ils ont. Donc Netflix, c'est un diffuseur de médias américains, donc ils ont un blog technique qui est très très lu et qui est vraiment une référence où ils diffusent un petit peu toutes leurs bonnes pratiques autour du cloud et notamment sur l'autoscaling. Donc c'est un diffuseur de vidéos américains et eux, ils ont, c'est un diffuseur. Comme tout diffuseur de vidéos à la demande, en fait, il a un truc qui est complètement. Un trafic qui est complètement variable. C'est-à-dire que le matin à 10h du matin, la ménagère de moins de 50 ans, elle regarde assez peu la vidéo. Par contre, à partir de 19h, quand tout le monde rentre chez soi, tout le monde regarde la vidéo. Donc, ils ont une infrastructure qu'ils font grossir le soir. Et puis, à partir de 2h du mat, quand tout le monde va se coucher, ils font complètement downgrader leur infrastructure. Et il y a la possibilité, donc Cloud Init, c'est un petit logiciel qui est utilisé aussi chez Amazon qui va vous permettre d'injecter et de configurer, enfin de bootstrapper votre instance avec des données. Donc vous passez des données à votre instance, donc son hostname, les users à créer, etc. Et ça va vous permettre de le configurer. Donc ça, c'est standard aussi bien, enfin c'est un petit logiciel qui est issu d'Ubuntu et qui est utilisé aussi bien chez Amazon qu'à peu près aujourd'hui, enfin que OpenStack et qu'à peu près tous les fournisseurs de cloud. Donc je l'ai dit, c'est défini avec soit du JSON, soit du YAML aujourd'hui. C'est vraiment un des points, enfin je pense qu'il est un des points clés de la manière dont le cloud est en train de révolutionner. Encore une fois, on a des conférences assez intéressantes cet après-midi et je vous engage encore à venir. C'est vraiment, enfin, ce que, pour reprendre encore l'image du je passe de mon animal de compagnie dont je prends soin à je passe quelque chose de plus industrialisé, répétable, testable, qui sont vraiment des notions intéressantes. Ça continue à bouger très très vite. Hein, je parlais de Docker, il y a les histoires d'infrastructures immutables maintenant qui commencent à arriver, qui sont encore une autre approche. Donc, c'est vraiment plein de notions qui sont assez passionnantes, qui changent la manière de faire les choses. Du coup, vous vous retrouvez à gérer beaucoup de machines à peu de gens avec un petit peu de malice. Je reprends l'exemple du CERN. Quand on avait vu la conf, donc il y a deux ans, enfin c'était deux ou trois ans même maintenant que j'avais vu la conf, leurs 10 000 machines physiques, pour info, donc eux déléguaient complètement la gestion des machines virtuelles et chacun faisait vivre ses machines virtuelles, chaque projet faisait vivre ses machines virtuelles indépendamment. La partie OpenStack, pour 10 000 machines physiques, ils avaient 10 personnes. Juste pour faire ça. Je gérais les 10 000 machines, 10 personnes. Donc j'ai pas la répartition, c'était je crois 8 ingénieurs qui chargeaient juste de faire les upgrades et de faire la définition de l'OpenStack et quelques personnes qui devaient aller passer leur journée à changer des disques durs parce que sur 10 000 machines il y en aura à peu près tous les jours des disques durs et des cartes mères à changer. Au-delà d'Amazon, donc OpenStack, c'est vraiment le projet libre aujourd'hui sur lequel beaucoup d'acteurs se tournent, on l'a dit, les gros clouds publics, HP, Rackspace, OVH, Dell investit sur OpenStack. Aujourd'hui, tous proposent des choses au-dessus d'OpenStack et sont des gros contributeurs du projet OpenStack. Un petit peu l'inconvénient, c'est que ces gros-là, du coup, rendent un petit peu complexe et si vous voulez déployer OpenStack chez vous, enfin, chez vous, dans votre entreprise, la brique aujourd'hui devient un petit peu compliquée à configurer par soi-même. Mais il y a de la doc, il y a vraiment une grosse communauté. On a parlé des aspects communauté dans la présentation d'Adrien. C'est vraiment, il y a vraiment une très très grosse communauté. Il y a une bonne doc, il y a une communauté française maintenant depuis un an et demi. Donc il faut en profiter. Il y a quand même pas mal de distribs maintenant qui commencent à faciliter le travail. Et le projet donc, qui avance assez rapidement. Je t'ai piqué la conclusion, mais c'est pas grave. On a 5 minutes de retard, mais on prend des questions si vous voulez. Le petit là-bas. Oui.
Entre Swift, donc a priori l'équivalent S3 et Amazon, et ce que vous appelez database as service. C'est-à-dire, si moi je suis développeur de logiciels, vous dites qu'avec ce compte tokenisé, mais en fait.
C'est plutôt. Enfin, il faut vraiment voir. Enfin, des fichiers, du coup. C'est vraiment des objets dans le sens fichier. Mais du coup, enfin, plutôt que de. Bah, ça arrive, hein, je vais dire n'importe quoi, tu fais un annuaire de personnes, bon, ton entreprise, c'est pas forcément très escalable, mais plutôt, enfin, la première solution facile, c'est je stocke ça dans un blob dans ma base de données. Bon, au bout d'un moment, la base de données, elle devient un peu colossale et c'est pas sympa. Donc, on commence à imaginer qu'on va stocker ça sur un file system. On va faire un peu une hiérarchie, histoire d'avoir des hashes, des trucs pour optimiser. Et ben, en fait, plutôt que de se dire, ben voilà, on va faire croître ce file system, là, avec S3, t'as plus du tout ça à gérer. Tu stockes tes objets et puis c'est lui qui se charge. Donc, si t'as 1 million d'objets, c'est son problème et ça marche assez magiquement. Donc après, ça peut être des petits et des. Enfin, c'est vrai pour des images, si c'est des ISO de ta distribution d'Ubuntu favorite et que tu veux garder tous les jours, bah voilà, ça marche aussi quoi.
Ouais. Est-ce qu'il y a une contrepartie en termes d'accès à ces objets? Est-ce que c'est plus lent que c'est par un file system par
exemple? C'est différent. Après, du coup, tu. L'intérêt, c'est qu'il réplique ça sur beaucoup de briques. Donc tu vas te retrouver avec quelque chose qui peut être assez proche de. Enfin, tu peux aussi bénéficier d'un reverse proxy. Enfin, du coup, enfin, si tu prends Amazon, ils le couplent énormément avec leur offre de CloudFront, qui est une offre de CDN en fait. Donc tu vas te retrouver avec typiquement ce genre d'objet que tu peux diffuser, tu peux imaginer plein de choses qui te permettent de le rapprocher et de le rendre vraiment très performant. Quoi. Donc ça dépend de ton utilisation, mais il y a vraiment des moyens de le rendre vraiment très très performant.
C'est quoi à peu près le coût d'entrée matériel, on va dire, pour faire un open stack basique? Donc ça devient intéressant en fait d'utiliser open stack, d'utiliser un Docker.
Enfin, nous on fait des tests avec une machine. On peut le mettre sur une machine, après c'est pas forcément le. Aujourd'hui, ça serait d'avoir. Enfin, je pense la conf de base, ça serait quasiment 3 machines, d'avoir un nœud contrôleur, un nœud de compute et un nœud qui va gérer le réseau.
Ça dépend aussi quel morceau tu veux installer. Typiquement, si tu veux installer Swift, pour le stockage d'objets, Swift lui-même, vu qu'il réplique ses. Le principe c'est qu'il réplique ses objets sur plusieurs machines, etc. Déjà, là, t'as des. Il y a des besoins un peu plus importants. Ça dépend ce que tu veux faire au niveau réseau. Enfin, il y a vraiment un nombre infime de déployer, de façons pour déployer OpenStack. Déjà, il faut faire le choix de quel composant tu veux, parce que tu n'es pas obligé de les prendre tous. Tu peux avoir un câble uniquement stockage d'objets avec que Swift. Tu peux avoir un câble juste avec Innova et 2-3 trucs qui vont autour. Et puis après, il faut choisir ça, il faut choisir comment tu vas. Il y a plein de choix à faire sur Nova, avec quel hyperviseur tu vas utiliser, le réseau pareil, quelle technologie sous-jacente tu vas utiliser. Et ça change plein de choses, même en termes de prérequis matériels. Il n'y a pas de réponse universelle.
Il y a un projet, enfin, si jamais tu veux juste jouer, il y a un projet qui s'appelle DevStack, qui permet de démarrer très facilement sur une machine un cloud OpenStack. Donc tu prends pas du tout. Du coup, si tu veux justement avoir l'UI, il a que montré Adrien le dashboard et de créer une machine virtuelle, tu peux le faire assez simplement. Après, du coup, tu t'abstrais complètement de la partie complexité de déploiement. La complexité de déploiement vient aussi de tous les projets qu'il y a, des milliards de possibilités qu'il y a, et de se poser toutes les bonnes questions, de dire j'en ai besoin, j'en ai pas besoin, comment je le veux. Le réseau, par exemple, tu arrives, tu dis bah, qu'est-ce que je veux? Je veux utiliser des tunnels gros, des VLAN, des VXLAN, des. Enfin. C'est ça qui est complexe.
Alors en termes de calcul intensif, par exemple le CERN, est-ce qu'il y a un coût, notamment des lectures de fichiers, des gros fichiers en lecture, enfin, des calculs intensifs, est-ce qu'il y a un coût élevé sur ce type de.
Je ne sais pas si tu as revu le CERN. Ils ont refait les confs à l'OpenStack.
Pour la partie stockage ou pour la partie.
Enfin, en gros, la direction des deux, parce que généralement, on va. Enfin, dans le travail.
Christophe, tu voulais.
Ouais, j'ai pas mal de cas là-dessus en fait. Tu réponds à la même ça dépend en fait de la technologie d'actualisation qu'on utilise. C'est-à-dire que les gens qui vont faire de l'UHPC ne vont pas partir sur du WSX ou du KVM comme Tavizer, ils vont partir soit sur du LXC. Donc pour avoir vraiment une technologie plus basse, ou même encore mieux maintenant quand c'est du bare metal. C'est-à-dire que dans les scalpers qui ont été mentionnés tout à l'heure, je parle du développement, je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas.
Je parlais de l'aéronique.
Voilà, donc on peut provisionner donc des machines physiques, au lieu de provisionner des machines virtuelles. Et donc dans ce cas-là, les gens ils provisionnent des machines physiques pour leur permettre justement d'arriver à avoir des super temps d'accès, tout en gardant la souplesse de provisioning et d'élasticité, tout en gardant l'élasticité en fait et la spécialisation à la demande.
Donc pour savoir si je suis disons que je déploie 10 machines, une chez moi, une à Marseille, chez ma famille, une autre chez un copain à Paris. Est-ce que je peux relier tout ça avec OpenStack et Swift pour faire du partage de fichiers de façon transparente?
Je suis pas sûr que transparent soit le mot adapté.
Parce que c'est vraiment une notion de réseau local.
Merci. Non, donc à l'usage, non, les gens qui déploient des clouds OpenStack de taille assez importante, à un moment donné, ils se posent cette question. Si je veux déployer mes données, soit répliquées dans deux régions, ou même avoir deux régions différentes pour mes instances Nova, c'est possible. Donc, dans beaucoup de projets OpenStack, il y a cette notion de région. Dans Swift, il y a ça, c'est la géoréplication. Tu vas quand même avoir un certain nombre de machines dans un même data center et dire voilà, je réplique mes données sur trois machines différentes dans le même data center. Et après, tu peux aussi ajouter une notion de région et dire que tu veux répliquer les données. Mais il faut que le logiciel sache le faire parce que ce n'est pas du tout les mêmes conséquences faire une réplication entre deux machines dans le même data center et une machine de l'autre côté de l'Atlantique. Donc il faut que le logiciel sache le faire. Et dans la plupart des composants d'OpenStack, il existe maintenant cette notion de région. Mais OpenStack ne va pas utiliser pour relier.
Mais concrètement, il existe des infra OpenStack avec des contrôleurs qui gèrent différentes régions éloignées de, je sais pas, 800 km.
Le CERN, par exemple, ils ont commencé avec leur cloud à Genève. Et maintenant, ils ont une autre partie du cloud qui est déployée en Hongrie, je crois. Donc peut-être un 1000 km, un truc comme ça. Et ils gèrent ça comme ça.
Mais c'est le même OpenStack.
Ouais, c'est le même OpenStack. Alors après, si on rentre un peu dans le détail, je crois qu'ils utilisent pour la partie Nova, pour la partie gestion des instances, ils utilisent la notion de cells, des cellules en Nova, une fonctionnalité qui permet de scaler Nova à l'échelle des différentes régions. Le CERN, tout comme Netflix, tout comme Amazon, ils ont un blog. Le CERN, ils ont un blog aussi qui est relativement intéressant, où ils parlent de ça, je pense, et ils parlent aussi la question des upgrades, qui est une grosse question. Quand vous avez un cloud OpenStack et que vous mettez à jour 6 mois après, comme on l'a dit, le projet avance à une telle vitesse que dans 6 mois, des modifications, des corrections de bugs, des nouveaux bugs, des nouvelles fonctionnalités, il y en a un nombre incalculable. Faire un upgrade dans un cloud OpenStack, c'est pas évident. Et le CERN le fait, ils sont obligés. Et donc, ils ont des articles assez intéressants sur comment ils font leurs upgrades, par exemple. Et le CERN, c'est certainement une des implémentations d'OpenStack connues. Les plus importantes en termes de nombre de corps et de notion de différentes régions, etc.
Dans le cadre d'économie d'énergie, par exemple, est-ce que OpenStack il est capable d'allumer automatiquement à la volée des machines et d'en faire par exemple des ESX ou du bare metal comme on évoquait tout à l'heure? Est-ce que ça il peut le faire ou...
Je crois pas. À ma connaissance, il n'y a pas de...
Je vais répondre Triple O là-dessus. Triple O, c'est un projet d'OpenStack. C'est OpenStack on OpenStack. C'est une manière de déployer OpenStack, en fait. Et l'idée, c'est déployer OpenStack avec OpenStack. Donc, avoir un undercloud très basique et de déployer le vrai cloud à partir de cet undercloud. Et donc, ça permet d'utiliser des fonctionnalités telles que l'autoscaling. Et alors, ce que je dis, c'est un peu... C'est pas forcément trivial à déployer aujourd'hui et ça marche pas complètement, mais ça commence et c'est l'objectif. Et donc, le undercloud peut très bien dire j'ai un nombre variable de hyperviseurs, et lorsque le besoin se fait sentir, je vais automatiquement scaler, donc on va essayer la fonctionnalité d'auto-scaling d'OpenStack, déployer une nouvelle instance via l'aéronique, en fait, ça va déployer un nouvel hyperviseur sur une machine physique. Et donc, voilà, on peut utiliser avec Tripolo, les fonctionnalités inhérentes au cloud, les fonctionnalités notamment d'auto-scaling et du déploiement bare metal, pour déployer son vrai cloud. Donc ça peut être éventuellement une réponse à cette question, automatiquement scaler son cloud OpenStack. Genre si la nuit, la demande d'instance dans le cloud baisse, de telle sorte qu'on a des hyperviseurs qui ne servent plus à rien, l'undercloud va shooter les machines qui servent à les éteindre.
Il n'y a pas forcément non plus de... Enfin, c'est Facebook qui a publié récemment là, des notes sur l'optimisation, enfin la manière dont on optimise justement la consommation électrique et la chaleur produite dans le data center, enfin la consommation électrique globale du data center. Il n'y a pas aujourd'hui de choses équivalentes, enfin d'implémentation équivalente côté OpenStack.
Il y a un projet qui s'appelle QAPI, KWAPI, qui vise un petit peu à faire changer du placement intelligent sur OpenStack, qui n'est pas forcément extrêmement poussé aujourd'hui, mais c'est ce qui commence à arriver. Il y a des gens qui commencent à se poser des questions par rapport à ça.
Des projets comme ça, qu'il y en a.
Voilà, il y a des centaines, beaucoup. Il y a des centaines.
Je vous invite à faire un tour sur. Bon, malheureusement, je vais appuyer trop tard, ça va être. Mais si vous allez sur geek.openstack.org, vous avez en fait l'ensemble des codes sources de tous les projets OpenStack, et vous avez une liste longue comme le bras. Et petite parenthèse, vous avez, parce qu'on a parlé d'infrastructure as code, le projet OpenStack lui-même utilise cette notion d'infrastructure as code pour gérer toutes les machines qui exécutent les tests automatiques, etc. Toute l'infrastructure utilisée par les développeurs OpenStack est gérée comme une infra as code. Et si vous êtes sur geek.openstack.org, vous allez trouver les sources de Nova, de Swift et tout ça. Et vous allez aussi trouver de la configuration Puppet et un ensemble de repositories Git qui décrivent en fait l'infrastructure utilisée par le projet OpenStack. Aussi, les tests automatisés pour le projet OpenStack, les tests unitaires, etc., qui sont exécutés automatiquement, sont exécutés dans des clouds tels que le cloud HPE. Donc, Eat Your Own Dog Food, OpenStack utilise du cloud pour se développer, enfin, dans le cadre de son développement, et puis utilise la notion d'infrastructure à seul. Donc, tout ça, ça marche, la preuve OpenStack le fait pour lui-même. C'est assez intéressant.
On va peut-être s'arrêter. Dernière question, on est assez en retard.
Le cours d'apprentissage, si aujourd'hui, admettons, on parle d'une infrastructure vierge, si je veux aujourd'hui louer un serveur dédié, ou deux, ou trois, et commencer à créer des machines virtuelles, si je veux utiliser OpenStack, je vais réussir à le faire en une demi-journée, une semaine, un mois, pour développer, déployer automatiquement une machine virtuelle, 10 machines virtuelles. Voilà, est-ce que vous pouvez donner des ordres d'idées pour savoir
Ça dépend du bagage technique avec lequel tu pars, c'est toujours compliqué. Je pense qu'en ayant des connaissances, des bonnes connaissances Linux, je pense qu'il faut compter. C'est plutôt de l'ordre de la semaine que de l'heure. Quoi. Le temps d'appréhender, enfin, c'est beaucoup de notions, c'est de la doc à lire, c'est essayer de comprendre ce que tu veux faire, ce que tu peux faire. Tu as pris un exemple, je loue des serveurs dédiés. Ça veut dire que si tu prends la couche de réseau, tu ne vas pas pouvoir le gérer comme tu veux. Enfin, tu n'es plus maître du réseau sur un serveur dédié. Donc voilà, tu as une première contrainte. Donc voilà, c'est faut arriver à caser qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux faire, lire la doc, après assimiler les différentes notions. Moi je pense que c'est plutôt du domaine de la semaine pour avoir une première machine que de l'heure ou de la demi-journée.
Ça, quand on déploie réellement sur les machines, c'est ça. Pas oublier DevStack, si vous voulez juste tester, DevStack c'est un script qui vous déploie un OpenStack tout en un dans une machine virtuelle, et qui vous permet de voir le dashboard et de tester les API. C'est clairement pour rien d'autre que du test, mais si vous voulez juste jouer avec et regarder les process qui tournent et regarder les logs, voir ce qui se passe, regardez DevStack. Pour déployer réellement sur des vraies machines et que ça marche à peu près, si on n'a jamais touché OpenStack, c'est déjà une bonne semaine pour pouvoir redire ce qu'on a dit globalement sur quel service fait quoi déjà, ne pas se perdre là-dedans, comment on va le déployer, toutes les options possibles, c'est relativement conséquent. Donc,